Lizzie présente Tokyo Vice, un journaliste américain sur le terrain de la police japonaise, de Jake Adelstein, lu par Rémi Bichet. Je dédie ce livre à l'inspecteur Sekiguchi, qui m'a appris à me conduire en homme honorable, ce que j'essaie d'être. À mon père, qui a toujours été un héros pour moi, et m'a appris à défendre ce qui est juste. Au Tokyo Metropolitan Police Department et au FBI, pour nous avoir protégés, moi, mes amis et ma famille, et pour leurs efforts constants pour maintenir les forces du mal en échec. À ceux que j'aime, qui nous ont quittés et qui ne reviendront jamais. Vous me manquez. Et votre souvenir demeure. Une rencontre est presque le début d'une séparation. Proverbe japonais. Prologue. 10 000 cigarettes.
Vous supprimez cet article, ou c'est vous qu'on supprime, et peut-être bien votre famille aussi. Mais on s'occupera de vous en premier. Pour que vous appreniez quelque chose avant de mourir.
L'homme de main, élégamment vêtu, parlait très lentement. De la manière dont les gens parlent aux idiots ou aux enfants, ou de la manière dont les Japonais parlent parfois aux étrangers complètement paumés. Ça ressemblait à une offre à sens unique.
Laissez tomber cet article et votre boulot, et on fera comme si rien de tout ça n'était arrivé. Écrivez votre article. Et il n'y aura pas un seul endroit dans le pays où l'on ne vous traquera pas. Compris ?
Ce n'est jamais une bonne idée de se trouver du mauvais côté du Yamaguchi-gumi, la plus grande organisation criminelle du Japon. Avec ses 40 000 membres environ, ça fait un paquet de mecs à qui on les brise. La mafia japonaise. Vous pouvez les appeler Yakuza, mais beaucoup d'entre eux préfèrent Gokudo, littéralement l'ultime voie. Le Yamaguchi-gumi est tout en haut de l'échelle des Gokudo. Et parmi les nombreuses ramifications qui font le Yamaguchi-gumi, le Goto-gumi, avec plus de 9 000 membres, est la plus infâme. Il taillade la tronche des réalisateurs, balance les gens des balcons d'hôtel, roule sur les maisons à coups de bulldozer. Ce genre de méthode. L'homme assis de l'autre côté de la table qui me faisait cette proposition appartenait au Goto-gumi. Il ne l'avait pas formulé comme une menace. Il n'avait ni froncé, ni plissé les yeux. À part le costume noir, il n'avait même pas l'air d'un yakuza. Il avait tous ses doigts. Il ne roulait pas les airs comme les gorilles dans les films. Il avait plutôt l'air d'un serveur un peu bourru dans un restaurant chic. Il laissa la cendre de sa cigarette tomber sur le tapis, puis écrasa celle-ci dans le cendrier, sans emphase. Il en alluma une autre. Avec un Denil plaqué or. Il fumait des hopes, un paquet blanc, le nom écrit en majuscules. Les journalistes remarquent ce genre de détails. Mais ce n'était pas des hopes standards. C'était la version trapue, plus petite de moitié, avec beaucoup plus de nicotine. La version létale. Le Yakuza était venu avec un autre homme de main qui ne disait absolument rien. Le mutique était maigre, avec la peau mate, un visage chevalin, et les cheveux longs en bataille teintés en orange. Une allure de shiatsu. Cette mode des années 90 à Tokyo, qui consistait à se teindre les cheveux en marron. Il portait un costume noir identique. J'étais venu avec des renforts. Un flic de bas étage, anciennement assigné à la brigade anti-gang de la préfecture de Saitama, Chiaki Sekiguchi. Il était un tout petit peu plus grand que moi, avec l'air presque aussi sombre. Plus costaud, les yeux bien plantés et une coupe de cheveux à la Elvis dans les années 1950. On l'a souvent pris pour un yakuza. S'il était parti dans l'autre direction, je suis sûr qu'il serait devenu un patron du crime respecté. C'était un super flic, un bon pote, mon mentor sous plusieurs aspects. Et il avait tenu à venir avec moi. Je lui ai jeté un coup d'œil. Il haussa les sourcils et les épaules et me fit un signe de tête. Il n'allait pas me donner de conseils. Pas cette fois. J'étais livré à moi-même. Est-ce que ça vous dérange si je fume une cigarette en y réfléchissant ?
Je vous en prie,
dit le Yakuza, avec plus de retenue que moi. Je sortis de ma veste un paquet de gudang garam, des cigarettes indonésiennes au clou de girofle. Elles étaient bourrées de nicotine et de goudron, et sentaient l'encens, ce qui me rappelait l'époque où, étudiant, je vivais dans un temple zen. Peut-être que j'aurais dû devenir moine bouddhiste. C'était un peu tard à présent. Je m'en calais une dans la bouche, et tandis que je fouillais mes poches à la recherche d'un briquet, l'homme de main dégaina d'un geste rapide et assuré son denil, qu'il tint près de mon visage, jusqu'à ce qu'il fût sûr qu'elle était bien allumée. Il était très accommodant, très professionnel. Je regardais la fumée épaisse flotter en cercle concentrique depuis le bout de la cigarette. Le clou de girofle mélangé au tabac crépitait et grésillait quand j'inspirais. J'avais l'impression que le monde entier avait trouvé son calme et que c'était le seul son que je pouvais entendre. Le crépitement, le grésillement, le pétillement. Le clou de girofle a tendance à faire ça. J'espérais qu'une toute petite braise ne viendrait pas trouer mon costume ou le sien. Mais une fois de plus, après mûre réflexion, je me dis que ça n'avait pas d'importance. Je ne savais pas quoi dire ou faire, mais alors pas la moindre idée. Je n'avais pas assez de matière pour écrire l'article. Merde, il n'y avait pas d'article. Pas encore. Il ne le savait pas, mais moi si. J'avais seulement assez d'informations pour me retrouver dans ce fâcheux face-à-face. Peut-être que toute cette histoire avait un bon côté. Ouais. Peut-être que j'en avais marre de bosser 80 heures par semaine. Peut-être que j'en avais marre de rentrer à la maison à 2 heures du matin pour repartir à 5. Peut-être que j'en avais marre d'en avoir marre. Marre de courir après les flics. Marre de me faire piquer mes sujets par la concurrence. Marre d'affronter 6 deadlines par jour, 3 le matin pour l'édition du soir et 3 le soir pour l'édition du matin. Marre de me réveiller avec une gueule de bois jour après jour. Je ne pensais pas qu'il fût en train de bluffer. Il avait l'air très sincère. En ce qui le concernait, l'article tuerait son boss. Pas directement, mais ça en serait la conséquence. Son Oyabun, son père adoptif, Tadamasa Goto, le gangster japonais le plus célèbre de tous. Alors naturellement, il trouvait justifié de m'abattre. Toutefois, si je remplissais ma part du marché, est-ce qu'il remplirait la leur ? Le vrai problème, c'était que je ne pouvais pas écrire l'article. Je n'avais pas encore tous les éléments. Mais il ne fallait pas qu'il l'apprenne. Voilà tout ce que je savais. Au cours de l'été 2001, Tadamasa Goto avait eu une grève du foie au centre d'oncologie de l'Université de Los Angeles. Je savais, ou pensais savoir, quel docteur avait effectué la greffe. Je savais combien Goto avait dû débourser pour avoir son foie. $1 million d'après certaines sources, 3 millions selon d'autres. Je savais qu'une partie de l'argent destiné à payer les frais hospitaliers avait été envoyée du Japon aux États-Unis via un bureau de la branche de Tokyo vers un casino de Las Vegas. Ce que je ne savais pas, c'était comment un type pareil avait pu entrer aux États-Unis. Il avait dû se faire de faux papiers, ou bien soudoyer un politicien japonais ou un politicien américain. Quelque chose m'échappait. Il était sur la liste de surveillance du service de douane et d'immigration, du FBI, des stupes. Il était sur liste noire. Il n'aurait jamais dû pouvoir se rendre aux États-Unis. J'étais certain qu'il y avait un bon papier à faire sur le voyage de Goto et son opération. C'était pour ça que je bossais dessus depuis des mois. J'imagine que pendant que j'étais en train de travailler sur cet article, quelqu'un m'a balancé. Je remarquais que mes mains tremblaient. La cigarette semblait s'être évaporée entre mes doigts, alors que je réfléchissais. J'allumai une deuxième cigarette. Et je me demandais comment, bordel, j'avais atterri là. Dans cette situation, je n'avais le droit qu'à une seule chance pour prendre la bonne décision. Il n'y aurait pas de second rendez-vous. Il n'y aurait pas d'erratum.